Voici la section de Bourges et Duchère de la Ligue des droits de l'homme.
Bonjour à tous les auditeurs, c'est à nouveau la Ligue des droits de l'homme pour son émission mensuelle. Ligue des droits de l'homme, il n'y a pas longtemps, c'était à la fin du mois de novembre, organisé au plan national une université d'automne dont le thème était de réfléchir autour des sociétés, les sociétés, qui sont confrontées à une crise globale, laquelle met les droits en jeu. Et au cœur de cette crise globale, mondiale, générale, il y a évidemment la crise sanitaire qui nous a révélé beaucoup de choses. Cette crise, elle est planétaire et on s'est aperçu que l'accès aux droits fondamentaux n'est pas garanti et même de moins en moins. Et nous avons eu des interventions, on ne va pas pouvoir toutes les passer en revue, on a eu des interventions de spécialistes, d'économie, c'est le cas de Benjamin Coria, qui est économiste à la Sorbonne, c'est le cas aussi de Sophie Crozier, qui est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et qui a été l'une des créatrices ou des animatrices de la coordination interhôpitaux dans la crise sanitaire que nous vivons. Et puis nous avons eu aussi, on rappellera bien sûr les positions de la Ligue par rapport à cet ensemble de crises et particulièrement la crise sanitaire, mais on a eu aussi une intervention très très intéressante de Bertrand Badi que beaucoup d'auditeurs entendent dans les radios, France Culture, France Inter et même à la télévision dans différentes émissions et qui nous a informé de ses réflexions sur la crise et les défis mondiaux qui sont à relever. J'arrêterai en disant la pandémie ou les pandémies à venir. Malheureusement, il y en aura d'autres avec les évolutions de l'environnement ou les mutations climatiques, comme on dit, atmosphériques, comme on dit. C'est pas les frontières qui les arrêteront, ces pandémies. C'est pas les frontières qui régleront les problèmes.
D'où l'idée qu'on peut mettre dès l'introduction. Les pandémies et tous les problèmes climatiques, toutes ces menaces sont maintenant de nature mondiale. Il est difficile de concevoir que les solutions puissent être nationales. Et les solutions ne peuvent être que globales. Le problème est global, la solution ne peut être que globale. Et c'est une idée qui apparaît à travers toutes les interventions à l'université d'automne.
Et on s'apercevra qu'à travers de cette prise de conscience que les solutions ne peuvent être que globales, que ces crises, et on s'arrêtera seulement à la crise sanitaire, Benjamin Coria expliquait que la crise sanitaire, elle est endogène à notre mode de production. Il dit, et je pense que beaucoup commencent à en prendre conscience, qu'on est arrivé aux limites de notre mode de production. Après 1945, et surtout après 1970 et 1980, la période où nous sommes rentrés dans le capitalisme cannibale, le libéralisme, le néolibéralisme économique, on a une globalisation financière qui a accéléré la course en avant de la prédation des richesses de la planète. C'est un productivisme d'extraction des ressources qui a contribué justement au changement majeur, changement au pluriel, changement majeur de l'environnement et du climat. Le Covid-19, on a l'impression, quand on écoute aujourd'hui certains médias ou certains de nos gouvernants, que la crise du Covid, c'est la première grande pandémie. C'est la 15e zoonose. C'est la 15e. On peut rappeler le sida, on peut rappeler Ebola, on peut rappeler H1N1, etc., etc.
La peste.
C'est la 15e. La peste, mais
le choléra.
Oui, mais la 15e.
Les classiques.
Oui, mais la 15e,
de nature.
Depuis la fin du XXe siècle et les 20 premières années du...
Et c'est la 15e et ce n'est pas la dernière.
Et ça n'est pas la dernière, puisque avec, prenons qu'un seul exemple, la déforestation à tout va, en Amérique latine, je pense à l'Amazonie, ou en Afrique, les grandes forêts du Gabon, du Congo, etc. Le monde sauvage, le monde animal sauvage se rapproche de l'humanité et la transmission de virus s'effectue de cette façon. Et ce que disait Benjamin Coria, c'était que cette énième zoonose, et avec la crise que ce Covid-19 entraîne, que la Covid-19 entraîne, on vit aussi un moment de privation de liberté qu'on n'a jamais connu.
Moi, je reviendrai un peu en arrière en disant que le rapprochement avec des animaux avec lesquels nous n'avions pas de contact. Bon, l'exemple que tu as donné, la déforestation en Amazonie, a débouché sur des exploitations de maïs ou disons de plantations, dont nous sommes clients. Et il faut que nous prenions conscience que nous participons sans en être réellement conscients à cette politique des multinationales et à notre destruction propre.
Tout à fait. Et tu poses la question de mais quelle solution à cette crise. Alors des solutions existent. Et dans la conversation avec Benjamin Coria, deux ensembles, si on peut dire, de solutions sont apparus dans le débat. Puisqu'on disait que la crise nous fait vivre une privation de liberté sans précédent, les solutions, c'est d'abord dans le domaine de la rénovation ou de la reconstruction démocratique. Et c'est pas seulement valable pour notre pays. Mais si on se cantonne chez nous, la rénovation démocratique, c'est par exemple modifier les règles du jeu électoral qui fassent que le pays soit effectivement réellement représenté.
Il y a un exemple qui est typique, enfin que je trouve qui illustre bien. Bon, les solutions actuellement en France ne sont pas prises en discutant avec des organismes, dont des organismes citoyens, victimes de la Covid, mais avec ce fameux Conseil de défense,
voilà,
où tout est secret. On est en guerre, on a un conseil de défense où se prennent des décisions dont nous sommes censés appliquer les résultats.
Absolument.
Mais on n'a pas notre mot à dire.
Absolument. Et c'est ça, justement, le déficit démocratique. La privation de liberté, c'est le déficit démocratique.
Clémenceau disait que la guerre était une affaire trop sérieuse pour être confiée aux militaires.
Oui, et si on veut, on peut reporter...
On pourrait dire que la santé est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux médecins.
C'est pas... Là, le problème, c'est que c'est pas confié...
Aux médecins,
c'est pas confié aux médecins.
Ce sont des politiques qui prennent.
Justement, une grande partie des médecins... On va venir tout à l'heure à ce que nous disait Sophie Crozier, justement, la neurologue de l'hôpital de la Pitié. Mais en France, il faut en finir avec ce système électoral qui fait qu'avec 18% des suffrages, 18% par rapport aux inscrits, aux citoyens inscrits sur les listes électorales, on peut avoir la majorité totalement absolue. Enfin, totalement absolue, ça ne veut pas dire... Mais la majorité absolue,
on en arrive à l'absurde. C'est une personne qui décide sans prendre l'avis des autres.
Voilà. Donc il faut des lois nouvelles qui permettent de donner voix aux personnes qui sont, à toutes les personnes, et y compris les plus démunies. Voilà. Et puis... La deuxième chose, mais Aline, tu le disais aussi à l'instant, le deuxième ensemble de solutions, c'est rebâtir des communs, rebâtir des biens communs, rebâtir des entreprises et des services publics.
Ah oui.
Ça suppose de modifier la propriété économique, évidemment, ça fera hurler les néolibéraux. Mais nous avons, dans nos principes constitutionnels, nous avons les outils pour le faire. L'article 17 de la déclaration de 1789 est aujourd'hui actif. Pourquoi on ne l'applique pas ? La propriété privée est un bien sacré, sauf si ce n'est l'utilité publique. On a l'article 9 du préambule de 1946, de la Constitution de 1946, qui dit que quand une entreprise atteint une puissance telle qu'elle est nécessaire à la vie de la nation, elle doit devenir la propriété de la collectivité.
On peut donner des exemples de ces biens. Bon, y a l'eau.
De plus en plus privée.
De plus en plus privatisée. Bon, c'est choquant. Alors que l'eau, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Il y a l'eau, qu'est-ce qu'on peut trouver encore comme bien ?
L'énergie.
On ne peut pas tout transformer en production de bénéfices pour des entreprises multinationales qui n'ont que faire du bien public.
Tout à fait. Je vois que le temps tourne. Et ce que tu viens de dire, peut-être que ça nous amène à la situation de l'hôpital, telle que nous en parle Sophie Crozier, puisqu'elle dit à un certain endroit que la crise sanitaire a entraîné une formidable souffrance psychologique dans l'ensemble de la société, dans la société tout entière. Mais elle dit aussi que des économies, au sens épicier du terme, au sens néolibéral du terme, des économies continuent d'être demandées à l'hôpital public, malgré la pandémie, qui reste gouvernée par des administratifs qui ne connaissent rien à la médecine et par des directeurs qui n'associent aussi jamais les personnels hospitaliers et les usagers, un petit peu comme d'ailleurs le gouvernement fait avec le Conseil de défense dont tu parlais à l'instant, Lynn. Et Sophie Crozier va très loin puisqu'elle dit, en fait, c'est la mise à mort de l'hôpital public au profit de structures privées ou semi-privées.
Alors, ce qui est important, ce qu'elle dit aussi, c'est que la crise du Covid n'a pas créé la situation. Elle était déjà largement, en place. Depuis le début du XXIe siècle. Elle a aggravé l'expression de la dégradation de l'hôpital public devenue un enjeu financier. Un malade à l'hôpital est quelqu'un qui doit rapporter.
C'est ça. C'est la conception néolibérale de toute entreprise.
Alors, par contre, ce qu'a révélé aussi, ce qu'elle met bien en avant, c'est que devant l'urgence des attitudes à avoir par rapport, ou des solutions à avoir par rapport au Covid, ils ont court-circuité l'administratif. Et en court-circuitant l'administratif, ils ont démontré leur capacité de répondre de manière humaine à des solutions graves.
Ne pas répondre à des situations graves par des solutions humaines, c'est très clair. Sophie Crozier dit, nous avons été de plus en plus obligés de faire des choix parmi les malades.
Ah, ça c'est...
Voilà où nous en sommes arrivés. Et elle dit que la crise a fragilisé, tu disais Aline à l'instant, que ça vient de plus loin, avant le début de la pandémie, mais que celle-ci a fragilisé encore plus l'hôpital public. Et elle disait, c'est très intéressant, les soignants, je cite, « les soignants ne sont pas fatigués par leur métier, ils ne sont pas fatigués par la nécessité de faire face à la Covid. Mais les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, etc., sont fatigués par l'absence de réponse politique à la crise de l'hôpital. »
Puis... Et il y a un cynisme aussi pendant cette crise, parce que l'État avait mis en place, sous la pression des multinationales, un programme d'économie qui débouchait en particulier sur la fermeture des lits. En pleine crise du Covid, les personnes qui étaient au chevet des malades à essayer de trouver des solutions apprenaient régulièrement que l'on fermait des lits.
Exactement.
Donc on continue dans ce schéma, d'intérêt financier, et non pas d'intérêt du malade.
Quand tu dis ça, tu résumes parfaitement les réalités de cette situation. Et alors, il y a quelque chose, tout à l'heure on rappellera sans doute les positions de la Ligue sur la crise sanitaire et sa gestion, mais il y a quelque chose sur lequel on pourrait venir et qui peut prolonger de façon très très concrète et très précise et qui concerne Bourges, le descriptif que Sophie Crozier fait de cette crise sur l'hôpital. On a aussi, bon, on sait que la Ligue a toujours été pour la liberté vaccinale et a toujours été très, très interrogative par rapport à l'obligation vaccinale. Et quand on sait que les vaccins, bon, quand on voit avec Omicron qui arrive, bon, tout ça, on peut se poser un certain nombre de questions sur l'efficacité, quelle est la proportion par rapport à 100%, bon, ces vaccins protègent jusqu'à quel pourcentage ? C'est variable selon les avis, mais on sait aussi que la vaccination, effectivement, semble vraiment freiner, semble éviter en tout cas les cas graves. Mais avoir été jusqu'à suspendre des soignants qui ne voulaient pas se faire vacciner, ça pose un problème dans la mesure où les vaccins ne protègent pas en fait de l'infection ni de la transmission. Or, je dispose d'une fiche qui m'a été remise par des soignants, je crois, de l'hôpital Georges Sand. L'impact sur le personnel et le nombre de postes vacants au 22 novembre 2021, 70 postes sont impactés sur Jacques Cœur, l'hôpital Jacques Cœur, et 21 sur le centre hospitalier Georges Sand. C'est surtout des soignants, mais aussi des agents socio-éducatifs, administratifs, techniques et une famille d'accueil. Ces personnels sont soit en maladie, mais contrôle des arrêts, soit suspendus de leurs fonctions. Donc là, dans ce cas-là, sans salaire, sans prime, sans possibilité de trouver un autre travail. Il y a eu une poursuite des fermetures de lits depuis plus de 18 mois. Au centre hospitalier Jacques Cœur, 100 lits de différents services, dont 25 en cardiologie, 4 en soins intensifs de cardio, 15 en chirurgie, 15 en soins de suite et de rééducation. Au centre hospitalier Georges Sand, 10 lits en service psychiatrique de jeunes adultes et 8 lits de psychiatrie adulte. Troisième chose, sélection. Alors c'est à Bourges comme ailleurs, sélection des patients à l'entrée des hôpitaux. Et c'est ce que disait Sophie Crozier, on est obligé de faire un tri entre les patients. Alors, sélection à l'entrée, c'est vérification des passes sanitaires ou des tests de dépistage par un vigile dans les hôpitaux publics devant accueillir tous les publics. Alors la question que posent ces soignants, c'est quelle qualité du service public ? Donc, une sélection serait plus souple au centre hospitalier Jacques Cœur qu'au centre hospitalier Georges Sand. Donc, la conclusion de cette fiche qui m'a été remise par ces soignants, la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la situation dramatique de l'hôpital public, mais cela fait plus d'une dizaine d'années qu'il y a des alertes sur les manques de moyens dans le champ de la santé publique. La situation actuelle des hôpitaux a pour conséquence d'accroître les souffrances des malades, des personnes souffrant de handicap, du bébé à la personne la plus âgée, le renoncement aux soins s'accroît. C'est exactement, concrètement, sur Bourges, ce que nous décrit cette neurologue de la Pitié-Salpêtrière.
Je me pose la question, quel est l'objectif recherché par le gouvernement ?
De liquider les services publics, peut-être.
On peut vraiment apporter cette réponse.
Un jour sur un marché chinois, au beau milieu de n'importe où, où l'on trouve tout n'importe quoi, des bijoux, des hiboux, des choux. Un jour donc dans une ville au loin, peuplée d'humains normaux, stupides, mais pas plus qu'ailleurs ni pas moins, parut un truc bizarroïde. Il y avait là un pauvre pangolin, agonisant chez un boucher, puis une chauve-souris, un vieux machin, à demi-morte à ses côtés. Du rapprochement de ces deux-là, dans ce quartier de gastronomes, serait né quelque chose qu'on comprend pas, comment mystère et boule de gomme. Un tout petit virus, riquiqui minus, à peine un pet de travers, Il n'en faut pas plus pour qu'on l'ait dans l'anus et qu'on se retrouve le cul par terre. Accusé de méchanceté, ce ridicule éclat de vie, ce serait erreur et bivesé, simplement comme tout ce qui vit. Ça prospère et se multiplie, c'est une loi de la nature. Bien sûr ça tue, bien sûr ça nuit à quelques autres créatures. À nous, nous v'là premier visé, rôde la mort, c'est la panique. Ne sachant comment s'échapper, on ferme frontières et boutiques. Tremblant, affolé, confiné, on se promet croix de bois, croix de fer, qu'à l'avenir tout va changer pour pas retrouver cet enfer. Un tout petit virus, riquiquiminus, à peine un peu de travers. Il en faut pas plus pour qu'on l'ait dans l'anus et qu'on se retrouve le cul par terre. Remarquez que c'est pas futé, de la part de cet animalcule, d'épuiser jusqu'à faire crever ce qu'il héberge, en un mot c'est nul. Bref, le temps passe et l'on s'en sort, un peu sonné mais sans trop de mal. On compte les faillites et les morts et l'on revient à la normale. C'est-à-dire qu'on se remet à polluer joyeusement, à massacrer, à bétonner, à piller, brûler comme avant. En somme à foncer dans le mur, mais encore plus vite et plus fort, en attendant qu'un jour c'est sûr, au crépuscule ou à l'aurore. Un tout petit virus, riquiquiminus, renaisse quelque part sur la terre. Profond un peu plus, on l'aura dans l'anus et on se retrouvera 6 pieds sous terre.
Vous êtes sur Radio Résonance 96.9 et vous écoutez l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme. Aline de la Pérelle, Michel Picard, c'est à vous.
Alors, je crois que on rappelle les positions de la Ligue sur la crise sanitaire.
Il y a plein de choses à dire.
On a dit que le pass était un mauvais coup.
On l'a déjà dit.
On rappelle. Bon, on est pour la liberté vaccinale et pas l'obligation. Mais on souligne quand même qu'en matière de privatisation, en matière de privation de liberté, dont parlait Benjamin Coria, des lignes rouges ont été franchies. Les contrôles effectués par des personnes qui ne sont pas habilitées. On a transféré des pouvoirs régaliens, des pouvoirs de contrôle d'identité à des personnes qui ne sont pas habilitées, on l'a transféré à des acteurs privés. Deuxième chose, le déremboursement des tests est une discrimination. Les plus pauvres s'en dispensent. C'est ce que disaient les soignants à Bourges. Les plus démunis, ils repoussent des soins qui seraient nécessaires, par exemple. C'est donc une gestion... Alors, les plus pauvres s'en dispensent, c'est un risque pour la santé publique. C'est un risque pour la santé de tous. Et puis la troisième chose que la Ligue souligne, c'est la gestion chaotique de la crise. Rappelons-nous, les masques, ça servait à rien à une certaine époque, où quand Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement de Macron, venait nous raconter qu'elle ne savait même pas s'en servir. Et puis, c'est une gestion chaotique mais autoritaire de la crise. Contraintes directes et indirectes, pression forcer les gens. Et c'est totalement contraire aux recommandations de l'OMS. Le consentement libre et éclairé. Donc, la Ligue s'alarme, dès septembre 21, la Ligue s'alarmait, je cite, s'alarme des conséquences sur l'égalité d'accès aux droits, sur la vie privée et sur le secret médical.
Bon, je pense qu'on pourrait poursuivre la réflexion en se disant qu'il y a des solutions. Ces solutions donc existent, mais sur qui compter pour les faire appliquer ? Alors, on est arrivé à l'idée que les pandémies sont... Enfin, toutes les menaces sur l'humanité sont mondiales. Donc, on doit penser, me semble-t-il, à toutes les organisations internationales. Alors, et en premier, à l'ONU, puisque c'est une organisation internationale qui regroupe la quasi-totalité des pays actuellement, mais qui, au départ, n'avait pas les mêmes objectifs que maintenant. L'objectif de 45 était de faire disparaître la peur de la guerre. Bon, la peur de la guerre n'est plus la peur prioritaire. La peur actuelle, hein, c'est la peur de tout, disons, les problèmes internationaux, la faim, le climat, la santé, et l'ONU a les moyens pour répondre à ces peurs, à la seule condition, hein, qu'on fasse évoluer les priorités de l'ONU et qu'on accepte, hein, qu'il faut accepter que l'ONU peut, d'une certaine manière, assumer une gouvernance internationale en tenant compte de la réalité de l'ONU, qu'elle a deux visages. Hein. Il y a l'ONU qui a la peine à changer, c'est le Conseil de sécurité, qui reste, disons, bloqué dans des priorités qui ne sont plus celles actuelles, puisqu'on est capable de dire que la faim, pour eux, n'est pas un problème. Et puis, il y a l'Assemblée générale de l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU, avec des responsables qui ont pris des décisions fondamentales pour l'évolution de l'ONU, hein, avec deux grands moments, celui de 1992, à l'initiative de Boutros-Boutros-Ghali, qui a mis en place l'agenda de la paix, et celui de Kofi Annan, enfin le moment, hein, disons, exprimé par Kofi Annan en 2000, avec le discours sur le millénaire. Et pour eux, et en particulier, hein, bon, pour Kofi Annan, il faut construire un multilatéralisme social. C'est pas la guerre qui est devenue prioritaire. Hein. Enfin, qui est la peur prioritaire. C'est les défis sanitaires, les climats, les défis alimentaires.
En fait, on est pris entre... les solutions existent. Tu viens de rappeler qu'elles sont globales, qu'elles sont multinationales, internationales. Mais on est pris entre deux... dans une tenaille. D'un côté, il y a les nationalistes extrêmes, bornés, les extrêmes droites. Dans la crise, évidemment, ils font leur pelote. C'est Le Pen, c'est Zemmour, c'est Orban, c'est bon, etc., à l'échelle européenne. Et de l'autre côté, par les néolibéraux. L'autre branche de la tenaille, c'est les néolibéraux qui nous rebattent les oreilles de « mais non ». Bien sûr, il y a des conflits, etc., mais avec la liberté du commerce, la liberté de circulation et des capitaux, la situation dans le monde, la faim a reculé, la pauvreté recule, etc. Oui, bien sûr, si on prend des moyennes, on pourrait arriver à dire « oui, c'est pas totalement faux, sauf que les moyennes, comme le disait un intervenant, Gérard Salem, prof des universités et auteur de l'Atlas mondial de la santé, il travaille en liaison avec l'ONU, disait « ouais, les moyennes, hein, il nous a bien fait rire, mais si vous avez la tête dans un congélateur et les pieds dans le four, alors c'est que vous êtes bien ». Ben, c'est une description de la planète. Et puis par rapport aux Le Pen, Zemmour et autres apprentis sorciers, il disait, à propos de la situation, il citait Groucho Marx, hein, pas Marx du Capital, mais Groucho Marx, en cas de guerre mondiale, abâche fou le camp à l'étranger. Hein ? Les solutions, comme vient de le dire Aline, sont les défis mondiaux ne peuvent être relevés qu'à l'échelle mondiale.
Même si, éventuellement, bon, un État peut faire des propositions. Hein. Bien sûr. Bon, c'est pas qui peuvent être la base d'une réflexion à l'échelle mondiale. Hein. Bon, mais il faut que ces propositions soient véritablement conçues pour être appliquées. Et déjà, il y a l'exemple de la France. Notre président a mis en place une convention citoyenne du climat qui a fait un travail sérieux Les personnes qui ont constitué cette commission se sont pris au jeu, ont réfléchi, ont fait appel à des spécialistes pour les éclairer, ils ont fait des propositions et elles ont accouché d'une souris. Quand elles ont été prises en main par Macron, ça a donné la loi résilience climat qui vide les propositions de la Convention citoyenne et qui ont été ces propositions, ça on ne nous l'a pas tellement expliqué sur le plan national, qui ont été la risée des spécialistes mondiaux.
Bien sûr. Bien sûr. C'est comme le grand débat, à l'époque des Gilets jaunes. Le grand débat, c'était remuer beaucoup d'air, c'était.
Mais c'était de donner l'impression d'être démocrate.
C'est donner l'impression d'être démocrate. Alors, quand tu disais que les positions des États sont à débattre et à prendre en compte au plan international, mais ça veut dire aussi qu'il faut, à l'intérieur de tous les États, que les populations se bougent pour conquérir plus de démocratie.
Et mais puis, elles se bougent quand on les respecte.
Absolument.
À travers l'hôpital, il y a eu une prise de conscience que l'hôpital, c'était pas des techniciens qui devaient le gérer, mais c'était, comme disait la personne qui exprimait, qui exprimait les soucis de l'hôpital, c'est à nous qui travaillons et vous qui êtes soignés. C'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire, disons, démocratique.
C'est la prise par chacun en main de la situation pour pouvoir y intervenir.
J'avais entendu, j'avais même vu à la télévision le cas de l'hôpital, je crois, de Tourcoing, où le directeur, qui est un directeur comme les autres, mais qui a pris conscience du problème et s'était entouré, pour chaque décision, d'un aréopage de médecins, ce qui fait que son hôpital était plus ou moins gouverné à l'ancienne. Et il avait observé qu'il y avait beaucoup moins d'absentéisme, qu'il n'y avait eu aucun problème pour vacciner tous les soignants, etc. Et finalement, c'était une initiative individuelle, du bon sens paysan.
Oui, mais c'est ce qu'on dit de l'hôpital et ce que tu soulignes avec le cas là. On peut le dire de l'éducation. On peut le dire France. On peut le dire de l'éducation nationale. La plupart des gens qui ont la direction maintenant des établissements ne savent pas ce que c'est que d'être dans une salle de classe, quoi. N'ont jamais enseigné.
Oui. Alors ce qui vient d'être signalé, c'est que il y a quand même certaines personnes. Malheureusement, apparemment, on les compte sur le doigt d'une main, qui ont pris conscience de cette nécessité de s'entourer de gens qui sont au cœur des problèmes. Mais ils sont, comme on a dit, on est revenu à la situation antérieure, mais combien sont-ils ?
Ben oui. Mais bon, mais c'est quelque chose qui peut avancer et qu'il faut essayer de faire avancer. Mais sur cette crise et les défis mondiaux qui sont à relever, je citais tout à l'heure, en cas de guerre mondiale, je fous le camp à l'étranger, c'était Gérard Salem, et qui disait, pour sortir de ça, n'oublions jamais qu'il faut développer les communs. Et il disait, les communs à prendre en compte pour être un outil ouvrant la voie à l'effectivité des droits humains, il en citait quelques-uns, c'est l'énergie, c'est l'air, c'est l'eau, c'est les réseaux de transport, c'est les infrastructures de santé, c'est les infrastructures d'éducation, mais il disait aussi, c'est les outils d'information. Et quand on voit aujourd'hui chez nous en France, les médias sont dans les mains de Bolloré, Bolloré c'est Radio Zemmour, c'est Bernard Arnault, c'est Pinault, etc.
Elles se sont mis au service de lobby.
Oui, c'est ça. Oui, oui. de grands intérêts financiers.
Oui.
De grands intérêts de groupes industrialo-financiers, voire d'armement.
C'est sans doute une contre-offensive pour essayer de remettre en cause cette ouverture, cet espoir démocratique qui est apparu dans les différentes luttes de terrain depuis quelques années.
Et donc peut-être qu'on peut aborder une conclusion. Bon, Aline, tu feras la conclusion, mais je voudrais rappeler Bertrand Badie. Oui. Bertrand Badie, prof à Sciences Po, disait, il rassemblait les choses en disant, il y a 7 insécurités aujourd'hui, 7 grandes insécurités, à une époque où médias et gouvernements veulent nous faire croire que l'insécurité, c'est le risque, en traversant la rue, de tomber sur un voyou. Les insécurités à combattre, c'est l'insécurité environnementale, qui entraîne une insécurité sanitaire, alimentaire, économique, culturelle, individuelle et politique, avec l'affaiblissement de la démocratie. Et il disait que les menaces ne sont pas les autres peuples, oui, mais le mode de production prédateur dont parlait Benjamin Coria, le système néolibéral, et les pouvoirs. La menace, c'est ce mode de production, mais c'est aussi, surtout, les pouvoirs publics qui le défendent. Et donc, il y a urgence à engager des actions multilatérales. Donc, il y a des points d'appui qui sont les organisations internationales, l'ONU, certaines organisations non gouvernementales. Mais il y a des actions, il y a urgence à ce que les peuples se donnent la main. Et que la sortie de crise, elle pourra se faire que globalement, par la solidarité face aux enjeux qui sont globaux. Bref, on l'a dit tout à l'heure, le nationalisme borné, c'est une impasse. Ça ne résoudra pas les pandémies ni les mutations atmosphériques.
Moi, je vais simplement reprendre, en conclusion, une note un petit peu optimiste qui a été présentée au cours de cette université d'automne. Alors, le plus simple, c'est que je vous lise le texte. Le temps de la pandémie a aussi mis en lumière de multiples formes de mobilisation, souvent enthousiasmantes, qui ont redonné sens aux valeurs de la solidarité, de justice et de commun. On a vu en action les aspirations à une citoyenneté responsable, à la transition écologique, à une information libre reposant sur les faits et permettant de réfléchir aux enjeux collectifs. Une recherche publique au service des besoins collectifs et non pas guidée par l'accaparement de profits.
Exactement. Il y a toujours des lumières d'espoir. La Ligue des droits de l'homme ne baissera jamais les bras et cherchera toujours à agir en tendant la main à tous ceux qui vont dans le sens d'une rénovation démocratique.
Et du respect des autres.
Et du respect des autres. Peut-on se permettre de faire une petite publicité pour rappeler que la Ligue des droits de l'homme expose en ce moment à l'Hôtel de Ville sur le thème « Droits et libertés ». Mais et il y a 16 tableaux et qu'à chaque tableau, il y a un petit rappel d'un texte constitutionnel qui, bien souvent, n'est pas appliqué par le gouvernement. Et ou des textes internationaux que la France a signés.
Avec humour, c'est pas très loin du village de Noël.
Ah oui.
On a même le droit de dire qui est l'auteur des tableaux.
Non.
Ah. Bon.
Ils ne sont pas à vendre.
Non, c'est vrai.
Mais ils sont destinés à circuler.
Eh oui, alors comment faire ?
Moi, je pense qu'après avoir été voir le village de Noël, bon, qui est une certaine vision de l'économie, aller se ressourcer devant ces tableaux, c'est une bonne idée.
Non, mais comment faire pour les faire circuler ? La ville de Vierzon avait dit que ça l'intéressait de l'avoir, ça, on peut la transporter. Mais au plan national, la Ligue des droits de l'homme a pris clé les photos de tous les tableaux et dispose des textes d'accompagnement.
Voilà.
Et donc, va transmettre toutes les sections qu'il voudrait, ça sera mis à disposition. Le seul problème, ça risque d'être le transport. Moi, je pense que les ligueurs de Bordeaux qui voudront l'exposition qui est à Bourges, je crois qu'ils viennent la chercher.
Oui, bien sûr. On peut rappeler, puisque c'est la fin de l'émission, hein, on peut rappeler les sites de la Ligue des droits de l'homme, parce que c'est très à la mode, ça, visiter les sites, les blogs, les pages Facebook.
Bon, c'est très
simple. C'est pas
simple,
c'est vraiment simple.
Il suffit de taper sur son ordinateur LDH et on voit apparaître en première ligne Ligue des droits de l'homme. Donc on clique sur Ligue des droits de l'homme, s'affiche une page d'accueil, on peut aller chercher plein d'informations sur les interventions au plan national auprès du gouvernement, sur les recours que la Ligue, recours nombreux que la Ligue dépose, sur les
commissions,
les groupes de travail. Mmh. On peut lire les articles des revues de la Ligue, les communiqués de presse. Voilà, c'est très simple.
Vous avez le droit sur le marché de Noël d'aller distribuer vos petites
les fiches, oui, les voilà. Fiches que nous avons réalisées, oui. Sur le plan local.
Oui.
Il n'est pas prévu d'aller sur le marché de Noël, mais il est prévu d'aller sur les marchés des chefs-lieux de canton du département, mais aussi ceux de Bourges.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Merci à tous les deux.
Et à la prochaine fois.
À l'année prochaine.